I'm not sure what we've got here, Charlie. But if we've got what I think we've got something.
Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et en replay sur radiocampusamiens.fr. Dans cet épisode du jeudi 30 octobre 2025, vous retrouverez deux interviews réalisées par Colline et moi-même, Margot, à l'animation et dans une chronique sur le dernier album de Tame Impala en fin d'émission. Hier a eu lieu une projection en avant-première du documentaire « Tout va bien » de Thomas Ellis au Ciné Saint-Leu. Alors pour l'occasion, il est venu répondre à quelques questions dans notre studio. Juste avant de l'écouter, Anne-Françoise Davis, bénévole à la Croix-Rouge dans le service rétablissement des liens familiaux, est venue nous parler de cette mission en lien avec le documentaire.
Bonjour, je suis Anne-Françoise Davis et je suis là aujourd'hui en tant que coordinatrice d'une mission de la Croix-Rouge, le rétablissement des liens familiaux. C'est une mission de la Croix-Rouge qui est fondamentale, fondatrice même, et très ancienne, mais qui est assez peu connue parmi les missions de la Croix-Rouge. Au début, Henri Dunant a lancé ce qui allait être la Croix-Rouge pour veiller sur les blessés. Il a considéré que les soins physiques, donner à manger, soigner, réchauffer, etc., c'était fondamental, bien sûr, mais qu'il y avait un autre aspect qui était aussi important, qui était le lien avec la famille. Que la famille sache où était le blessé, dans quel état, etc. Depuis, nous considérons à la Croix-Rouge qu'effectivement, parmi les besoins fondamentaux, il y a ce besoin de lien. Donc évidemment, la mission a beaucoup évolué depuis, et maintenant, elle est activée continuellement, internationalement, sur les scènes de conflit, quand il y a des catastrophes naturelles, et puis régulièrement pour nous, pour tous les gens qui ont, en migrant, perdu le contact avec leur famille. Et nous, en France, c'est principalement notre action.
Et comment est-ce que vous faites du coup pour rétablir le contact entre ces personnes qui ont migré en France et leur famille ?
On utilise le grand réseau international de la Croix-Rouge, puisqu'il y a des bureaux Croix-Rouge dans quasiment tous les pays et dans beaucoup de petites structures dans les pays. Les bénévoles de la Croix-Rouge internationale continuent notre action, c'est-à-dire que nous collectons les renseignements que nous donnent les gens qui viennent nous voir, les migrants qui arrivent en disant « je voudrais retrouver ma mère, j'ai perdu mon frère en cours de route ». Et tout ça s'est mis dans une grande appli géré internationalement. On a une équipe de salariés à Paris qui envoie les demandes dans les pays intéressés et donc qui fait le lien. Donc on a plusieurs étapes de lien, nous auprès des demandeurs ici, Paris qui est en lien avec nous et en lien avec les bureaux internationaux, et puis même le CICR, puisque dans pas mal d'endroits maintenant le CICR intervient par manque de capacité locale.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le CICR ?
Le Comité international de la Croix-Rouge, qui parfois pallie aux limites de certains bureaux régionaux ou nationaux.
Alors aujourd'hui, si on parle de cette mission-là de la Croix-Rouge, c'est aussi parce que Thomas Ellis vient présenter donc son documentaire « Tout va bien ».
Mm-hmm. Le documentaire de Thomas a été tourné à Marseille, parmi des mineurs non accompagnés, c'est le nouveau nom qu'on donne à tous ces mineurs qui arrivent sur nos territoires et qui sont sans famille, sans adultes référents.
Quand vous recevez ces mineurs, comment est-ce que vous les accueillez ?
Alors on porte toujours attention au fait qu'ils aient vraiment envie de faire cette recherche et qu'ils soient prêts. Parce que parfois, ils parlent de ce manque, de cette rupture. Par exemple, quand ça s'est passé en cours de route, c'est fréquent. Mais ils ne sont pas toujours encore prêts à faire la recherche qui va forcément remuer beaucoup de douleurs qu'ils essayent parfois d'enfuir. Alors certains, ils sont très, très pressés qu'on commence. Et puis d'autres, et on va leur laisser tout un temps pour y réfléchir. Parce qu'on leur demande des détails, on leur demande de travailler avec nous, à chercher les meilleurs moyens de trouver la personne. Et forcément, ça va être assez éprouvant pour eux, parfois. Toujours, mais parfois. Et donc, ils sont accompagnés par leur référent de la structure, qui fait le lien, qui va leur en reparler ensuite. Et puis, on garde le contact, comme avec tous nos demandeurs. On les rappelle régulièrement, tous les quelques mois, pour voir où ils en sont, on en est, etc. On veille principalement à garder nous-mêmes le lien avec eux, parce que parfois, c'est difficile. Puis alors, parfois, ils rencontrent un problème spécifique, bon, de papier aussi. Et donc, du coup, ils changent de téléphone. Enfin bref, et donc, on a parfois des ennuis pour garder le lien. Mais c'est pas gravissime. L'autre aspect plus intéressant, si on peut dire, et auquel on a beaucoup réfléchi, c'était la façon dont cette recherche les impacte. Parce que, je dis au tout début, quand on récolte tout leur histoire et tout leur... On sait que c'est un moment d'émotion. Mais ensuite, ils continuent à vivre avec. Et ils ne vont pas forcément évoluer de la même façon. On a des jeunes qui, au bout d'un moment, mettent plus ou moins sereinement cette histoire passée de côté pour avancer, et d'autres qui ont beaucoup plus de peine et qui du coup sont parfois dans une vraie souffrance de ce deuil pas dit, parce que il arrive qu'il y a un soupçon que peut-être que mon grand frère il est dans la Méditerranée, enfin bon, donc c'est dur pour eux.
Combien est-ce que vous pouvez accueillir des MENA au sein de votre mission?
En ce moment, on a à peu près 120 dossiers en cours, parce que, comme vous pouvez imaginer, certains durent très longtemps, d'autres sont résolus plus rapidement. Donc, par bénévole, on a entre 10 et 20 dossiers. Mais à partir du moment où on nous demande, on essaye d'accueillir rapidement.
Alors, parmi les structures avec lesquelles vous travaillez, il y a France Terre d'Asile.
Oui, qui est aussi partenaire sur la diffusion de ces documentaires. Et puis, il y a bien sûr des structures connues comme Coalia, Apprenti d'Auteuil, etc., qui sont Après-Mis, tous ces gens. Structures qui accueillent spécifiquement les mineurs.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'importance de ces associations, en plus de la Croix-Rouge?
Ah, c'est vraiment elles qui leur permettent de devenir autonomes, qui les prennent en charge d'abord à un moment où ils sont extrêmement vulnérables pour la plupart, et puis qui découvrent un monde nouveau souvent par rapport à ce qu'ils ont connu précédemment. Donc elles sont fondamentales pour les accompagner, pour découvrir notre société, les aider à se former, à aller à l'école, leur donner les outils pour devenir autonomes, et parfois en très peu de temps, quelques mois et au maximum 2-3 ans. Et elles font un travail à saluer.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Je suis avec Thomas Ellis. Bonjour.
Bonjour Colline.
Vous venez présenter votre documentaire « Tout va bien ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce documentaire? Quel est-il? De quoi ça parle?
Alors, « Tout va bien » est un film documentaire qui raconte le parcours de 5 mineurs non accompagnés arrivés tout seuls à Marseille. Donc, c'est des adolescents qui sont partis... les uns d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Guinée, et qui sont arrivés après avoir traversé la mer, les océans, tout seuls, sans parents, à Marseille.
Comment est-ce que s'est passée la réalisation? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté, par exemple?
Je me suis tout de suite intéressé à cette question des mineurs non accompagnés, parce que j'avais l'impression que quand on parlait de migration... On parlait toujours, et c'est nécessaire, des problèmes, des gens qui meurent en mer, des gens qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de papier. Mais j'ai l'impression qu'on raconte très peu que toute personne qui se déplace a des rêves, des envies de réussir, de trouver une nouvelle place dans sa vie. Et quand j'ai rencontré ces mineurs non accompagnés, quand j'ai fait les premiers repérages dès décembre 2019, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est que ces gamins, c'était un peu pour moi comme des super-héros, qui avaient une force de vie incroyable. Et du coup, la difficulté, c'était d'avoir l'autorisation de filmer ces mineurs. Parce qu'en fait, ces mineurs, ils sont sous la tutelle du juge et de l'ASE. Et ça a pris un certain temps. Ça a pris un certain temps, premièrement, parce que je ne savais pas exactement au départ ce que je voulais faire comme film. Et du coup, il y a eu énormément de repérages. Et en parallèle de ces repérages, j'ai aussi mis en place des ateliers d'écriture, de jeux, de danse, avec une centaine de gamins, d'adolescents. Et ça m'a permis un peu de mieux comprendre leur vie, leur envie, leur désir, et d'avoir aussi une relation au départ avec eux qui soit pas une relation de filmeur à filmer, mais juste un travail en commun.
Alors, ces 5 jeunes que vous avez suivis pendant 1h26, ces jeunes, est-ce qu'ils sont venus volontairement vers vous ou est-ce que vous les avez en quelque sorte choisis ?
Alors, je les ai choisis, sauf 2 qui sont arrivés comme ça. Mais donc, je vais vous raconter le premier que j'ai rencontré, c'est Junior Tano. Junior, je l'avais rencontré dans les premiers repérages, en décembre 2019, dans un hôtel près du port qui héberge les mineurs non accompagnés. Et j'ai vu ce gamin arriver, il avait 16 ans, et il est arrivé en costume cravate dans le hall, et il s'est changé en tenue de foot. Et il m'a regardé avec son regard très déterminé, il m'a dit « Moi, de toute façon, je serai soit joueur de foot professionnel, soit serveur au Plaza Athénée. » Et en fait, ben, la relation qu'on a eue a existé avec tout ce temps, et quand... En mai 2022, je savais que j'allais commencer à tourner. Je lui ai demandé s'il était d'accord. Je lui ai dit, voilà, Junior, j'aimerais bien te suivre pendant 2 ans, parce que le tournage a duré 2 ans, et suivre un peu ta vie et cette dernière année qui était cette année du bac pour lui. Et il a tout de suite accepté. Aminata Silla, qui est une jeune fille qui est guinéenne, ça a été un peu différent. Elle était arrivée en France en novembre 2021. Et elle dormait, comme tous les gamins qui arrivent, dans un hôtel où j'organisais un atelier d'écriture. Et elle a participé à cet atelier et on a fait travailler les adolescents autour de la question de comment ils s'imaginaient plus tard. Et il y a eu un grand débat entre tous parce que les garçons imaginaient qu'ils auraient une femme qui serait femme au foyer et Aminata s'est rebellée avec, face aux garçons et ça m'a marqué. J'ai été touché par cette gamine, cette jeune fille qui avait 15 ans et qui, face aux garçons, disait qu'elle, bah non, elle avait choisi de venir ici pour être libre, pour avoir un métier, pour être indépendante. Et ben, de la même manière, on a commencé à se connaître et on a continué à se connaître. Et pareil, en mai 2022, je lui ai demandé si elle était d'accord et elle m'a tout de suite dit oui. Alors les deux autres, ben, Khalil, qui est un jeune Algérien, j'avais remarqué dans les repérages que beaucoup de jeunes ne parlent pas français et en très peu de temps arrivent à apprendre le français. Et donc je cherchais dans les hôtels, dans les foyers, je passais des journées et des journées à rencontrer des jeunes. Et un jour il est passé devant moi avec son, vous verrez dans le film, il a un très très beau sourire et qui d'ailleurs peut en une seconde se transformer et on rentre dans son intimité, dans ses peurs, et il perd ce sourire et il le retrouve tout de suite après. Et ça m'a étonné. Et donc, je suis allé vers lui et je lui ai expliqué que je faisais un film. Donc, il parle l'arabe, moi, je ne parle pas arabe. On a essayé de discuter en utilisant Google Translate sur le téléphone et il a accepté que je commence à le filmer. Et comme tous les jeunes, d'ailleurs, que j'ai filmés, je leur ai tous expliqué qu'ils pouvaient à n'importe quel moment arrêter le film. Ils avaient toujours le droit d'arrêter. Et les deux derniers, Abdoulaye et Tidiane, là, c'était très particulier parce que dans le film, je les ai filmés le premier jour, la première nuit, quand ils sont arrivés à Marseille depuis l'Italie. Et pareil, de la même manière, pendant des journées, des semaines, j'avais fait des maraudes avec les associations. Je me baladais la nuit avec l'équipe dans Marseille pour trouver des jeunes qu'on pouvait filmer. Et ça ne fonctionnait pas toujours. Enfin, les jeunes ne voulaient pas trop parfois ou... Voilà, ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Et un soir, c'était en mars 2023, il y a un jeune garçon, Digiba, qui avait participé à des ateliers, qui m'appelle vers 19h. Il faisait froid. Il m'appelle, il me dit oh, « Thomas, il y a 2 jeunes, ils sont tout petits, ils ont 14, 15, 16, je ne sais pas, mais ils sont sur la Canebière, ils ne savent pas où dormir, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce que je dois faire ? Et en fait, nous, on était en tournage ailleurs avec Aminata et on est arrivé au bout de 2 heures sur place. Et Digiba avait expliqué ce que je faisais en fait, à Abdoulaye Tidiane et c'est lui qui leur a expliqué que je faisais un film et que c'était chouette d'y participer. Et on arrivait, c'était très particulier parce que bah, eux, ils étaient dans la rue, ils devaient aller au commissariat pour faire une demande pour être peut-être hébergés, pour être protégés en tout cas. Et moi, je suis arrivé, je leur ai dit voilà, est-ce que vous. Je sais que c'est très particulier, mais est-ce que vous êtes d'accord que je vous filme et vous pouvez refuser. Vous pouvez refuser maintenant, vous pouvez refuser demain, vous pouvez refuser dans 3 jours, dans une semaine, quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Et puis, je les ai suivis.
Cette barrière de la langue, est-ce qu'elle a été compliquée à traverser pendant la réalisation de ce film ?
Alors, ils parlent, à part Khalil, ils parlent tous assez bien français. Donc avec Khalil, on discutait avec Google Translate. Et puis c'est des choses très simples qu'on filme. Hein. On filmait des gamins qui vont à l'école, qui cherchent un stage, qui se baladent dans Marseille, qui sont aussi face à l'administration. Donc tout ça, je filmais ce qui était en train de se passer devant moi. Mais la difficulté, c'est que parfois, ils parlent à leurs parents, à leurs amis, dans leur langue. Et moi, je n'avais pas de traducteur à côté. Donc... Là, c'est le hasard et la beauté du documentaire. On verra en salle de montage avec des traducteurs ce qui s'est dit et ce qu'on va garder.
Alors, ces jeunes, vous les suivez dans leurs loisirs, dans leur recherche de stage, de travail, même chez eux. Pourquoi vous avez choisi de montrer autant leur intimité ?
Encore une fois, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, quand on parle de migration, on parle des problèmes. On interviewe des spécialistes, des policiers... fait des interviews posées. Et en fait, on ne montre pas la vie des gens. Là, la vie des adolescents, mais c'est pareil pour les adultes. Quoi. On ne montre pas comment ils se démènent pour trouver un métier, pour apprendre une langue, pour aller à l'école, pour vivre sans parents, seuls, dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et donc, moi, je trouvais que c'était important de filmer leur quotidien. Et ce que j'ai filmé, c'est assez banal. Hein, mais ce qui est beau, je crois, que c'est qu'avec le temps et avec le nombre de jours de tournage qu'on a passé à faire ce film, en fait, il y a à la fois une complicité qui se met en place, une confiance qui fait qu'on arrive, et vous verrez dans le film, à filmer des choses qui sont très intimes, en effet, et qui peuvent être très personnelles. Et je crois que c'est la beauté et l'intérêt du film.
Alors on va un petit peu spoiler le film, mais pas trop non plus. Donc on parle de personnes qui viennent de pays différents. Vous montrez peu. Enfin, la traversée est montrée de façon très poétique, un peu particulière. Pourquoi ce choix ?
Alors déjà, moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer ces adolescents à partir du moment où ils arrivent à Marseille. Donc déjà, c'était un peu compliqué pour moi de filmer la traversée. Deux, j'allais pas vraiment faire ce voyage aussi. Mais ce qui est aussi très important, c'est que malheureusement, quand ces adolescents, et c'est la même chose pour les adultes, arrivent en France, que ça soit au commissariat, à l'administration, à l'école, devant le juge, devant n'importe quelle autre personne qu'ils rencontrent, on leur pose toujours la question « comment t'es venu ? Comment ça s'est passé ? C'était difficile ?» Et en fait, ce qui est un peu dramatique, je trouve, c'est qu'on essentialise les personnes nouvellement arrivées qui ont fait ce voyage par ce voyage. Alors qu'en fait, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour démarrer une vie ici, pour essayer de réussir, pour essayer de trouver une nouvelle place. Et donc, je trouvais que ce n'était pas la peine d'en parler. Et donc, on a essayé, c'est quand même nécessaire de le faire ressentir. Et donc, dans le film... de manière assez en image, peut-être de manière un peu poétique, comme vous dites, c'est un beau compliment, d'arriver à faire sentir, aussi par les images, mais aussi par la musique et le son. Ça, on a beaucoup travaillé sur la musique et le son, qui est très particulière et qui crée des sensations pour permettre aux spectateurs de se mettre à la place de ces adolescents et du coup de porter avec eux une partie de ce trauma qui a pu être la traversée, mais sans jamais le dire.
Oui, parce que vous auriez pu aussi ne pas du tout l'évoquer.
Oui, j'aurais pu ne pas du tout l'évoquer, mais quand on vit à Marseille, on vit face à la mer. Et du coup, on la voit tous les jours.
Là, vous avez suivi 5 jeunes dans ce documentaire. Est-ce que vous allez continuer de suivre ces jeunes, d'autres jeunes, peut-être d'autres projets, d'autres films, pardon ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues ?
Alors, non, il n'y a rien qui est prévu. En revanche, ce qui est pas prévu, mais ce qui est un fait, c'est qu'on est toujours en contact, en permanence, avec ces jeunes. Samedi dernier, j'étais au mariage de Junior, qui est un des personnages du film, qui s'est marié. Voilà. Dimanche, j'étais avec Aminata pour lui raconter les dernières projections. Et en permanence, ben, je leur envoie des photos sur le public, sur les réactions, sur l'émission de radio qu'on est en train d'enregistrer, qu'ils vont écouter. Et j'espère bientôt que certains pourront venir avec moi dans certaines projections.
Et qu'est-ce que le public pense, justement ? Quel retour vous avez des projections ?
Alors pour l'instant, depuis le 17 septembre, on a commencé beaucoup de projections scolaires avec des lycéens. Essentiellement, et d'ailleurs on a une énorme surprise, c'est qu'on en est à 102 lycées qui se sont inscrits pour voir le film, soit près de 8000 lycéens et collégiens en France qui ont vu ou vont voir le film avant sa sortie. Tout ça en 3 semaines, et je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que la première projection, c'était à Vénissieux, dans un quartier un peu difficile, avec des jeunes qui n'avaient pas du tout l'habitude de voir des documentaires. Et au début de la séance, quand je leur ai dit que c'était un documentaire, ils tiraient un peu la gueule, quoi. Mais à la fin du film, j'ai été super surpris, agréablement surpris. C'est-à-dire que les lycéens et les professeurs étaient debout dans la salle, applaudissaient. En fait, ils avaient été touchés par l'histoire de ces adolescents qui ont le même âge qu'eux. Donc ça, c'était les projections scolaires. Et la semaine dernière, on a fait la première projection publique à Briançon. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un public très varié. C'est-à-dire des gens qui étaient des personnes qui soutenaient les associations d'aide aux migrants et d'autres qui étaient venus par curiosité, qui étaient plutôt hostiles à l'arrivée des personnes nouvellement arrivées dans la vallée. Et en fait, on a eu un débat passionnant avec le public parce qu'encore une fois, je crois que le film montre quelque chose qu'on ne voit pas. Parce qu'il manque juste du quotidien, quoi. Et je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir en disant « Mais en fait, j'avais pas compris. J'avais pas compris que c'était juste des gens qui cherchaient à y arriver, à réussir. »
Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous énerver quand vous les avez suivies ? Par exemple, ça peut être côté administratif, comment est-ce qu'ils ont pu être accueillis ? Est-ce qu'il y a eu... Vous avez réussi à rester objectif et à pas forcément trop vous impliquer, ou est-ce que ça a été compliqué ?
Non, pas du tout. Moi, ça n'a pas été un problème. Alors, avant de faire ce film, j'étais producteur et journaliste en Inde pendant 15 ans. Donc, je sais pas, non, j'avais une certaine distance avec ce qui se passait. De toute façon, j'y suis pour rien, je peux pas agir dessus. Et la réalité de l'accueil et les difficultés, elles sont aussi compréhensibles. Je veux dire, c'est une situation d'urgence. C'est aussi des gens qui sont rentrés illégalement sur le territoire. L'État ne sait pas comment gérer cette situation. Et c'est normal, malheureusement, qu'elle soit compliquée. Je crois que j'ai surtout été admiratif de leur force à ces jeunes et de leur élan de vie, leur force de vie. Et comme je disais tout à l'heure, je disais que c'était un peu des super-héros. Et je crois que c'est surtout ça qui m'a intéressé, quoi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions.
Merci, Colline.
Merci à Colline pour ses interviews. On écoute tout de suite Islands in the Stream de Dolly Parton. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love. Islands in the stream. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens 87.7. Aujourd'hui, j'ai choisi d'écrire une chronique sur le dernier album de Tame Impala, étant moi-même une grande fan de Kevin Parker depuis la sortie de l'album Currents en 2015. Alors déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, Tame Impala, c'est le projet indie électro-rock en solo de l'artiste australien Kevin Parker. Et à chaque album, les fans sont partagés. En effet, son empreinte varie beaucoup sur chaque projet et parfois, c'est assez déroutant. Cette fois-ci, pour son album Deadbeat, sorti le 10 octobre 2025, il s'est principalement inspiré des sonorités qu'on retrouve dans les raves australiennes. Rythme brut et grosse basse se mélangent à de jolies mélodies dansantes mais mélancoliques à travers les paroles. On l'a entendu dans plusieurs interviews rappeler que s'il ne s'intéressait plus vraiment à la musique, il sortirait des titres en accord avec d'autres de ses albums, utilisant les mêmes codes que ceux qui ont fonctionné le mieux. Il fait son grand retour en divisant une fois de plus les fans, qui s'amusent aussi bien à le descendre qu'à le remettre sur un piédestal. Pour ma part, j'avoue avoir été d'abord surprise lorsque j'ai écouté le premier single de l'album, End of Summer, sorti en juillet. Et en réalité, je m'attendais à ce que Kevin Parker nous sorte un album dans le style des précédents. Ce n'est pas nouveau non plus pour lui, mais pour nous, ça l'est. Néanmoins, il ne perd pas sa patte, on retrouve sa jolie voix et de belles mélodies, surtout au piano, comme dans le premier titre de l'album, My Old Ways. En écoutant Deadbeat, on entend à la fois le doux Tame Impala qu'on connaît si bien et qu'on aime tant dans Lonerism ou The Slow Rush, et le Kevin Parker influencé techno-trance et rave party australienne. Malheureusement, certaines critiques sont déchirantes et beaucoup de chroniqueurs s'amusent à noter l'album de manière pitoyable avec des arguments complètement infondés. Alors comparer des œuvres, c'est une chose, encore une fois, faut-il le faire avec des connaissances solides en la matière et avec tact. J'ai pu lire beaucoup d'avis constructifs qui se rejoignent pour la plupart du temps sur une même conclusion. Deadbeat est un très bon album, malgré la surprise et parfois le mécontentement de certains fans qui souhaitent encore un album comme Currents. Mais ce serait trop peu pour Kevin Parker qui préfère se mettre à dos certains pour permettre à d'autres de profiter d'un projet qui est nouveau et innovant. Ça change et nous, on le remercie. C'est toujours comme ça que lorsqu'un artiste se réinvente, il est critiqué, moqué et on lui reproche de proposer quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est là son travail qui devient de plus en plus intéressant et personne ne s'y attendait. Son idée, c'était surtout de se détacher de son perfectionnisme afin de créer un album plus léger, dansant et surtout efficace. En ce qui concerne l'art en général, il est normal que chacun ressorte les choses différemment, vous me direz. Ce qui est important, c'est de se faire son propre avis, sans se laisser forcément influencer par l'opinion populaire. Avant de vous prononcer, prenez le temps d'écouter, de regarder, de lire ce que d'autres en disent, et surtout, laissez-vous le temps de voir les choses à travers ce qu'elles vous font ressentir ou pas. Alors voilà pour cette fin d'émission, on va conclure sur un extrait du titre Breathe Deeper de son précédent album The Slow Rush avant d'écouter Not My World dans son dernier album Deadbeat. Comme ça, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce que je vous expliquais plus tôt. Donc Tame Impala en 2020 était ça. Tame Impala en 2025 maintenant, c'est ça. Alors bonne journée sur campus. My window.
Thank you.